Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce supplément week-end de Tech Café. On est dans un format un petit peu différent de l'épisode hebdomadaire, donc si vous voulez écouter les news de la semaine, les news incontournables, je vous invite à aller écouter le précédent épisode de Tech Café dans le flux du podcast, mais on va un petit peu parler de choses complémentaires et qui sont un petit peu moins centrales, mais non moins intéressantes. On va parler de tout ce qui est neuromorphe, donc vous allez voir, on va aller une nouvelle fois dans l'informatique fondamentale, et puis on va revenir un petit peu sur des échanges qu'on avait dans le cadre de l'épisode hebdomadaire de cette semaine. Et quand je dis on, c'est donc moi, Guillaume Vendée. Je suis à nouveau accompagné de Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume.
Salut.
Et de Matt, alias Prof du Web. Salut Matt.
On ne se sépare plus dorénavant, nous restons tous les trois tout le temps.
Absolument. On, voilà, c'est,
ah bon. Ah bon. C'est bon.
Ah bon. Première chose, déjà on avait une discussion qu'on avait commencé à faire après l'enregistrement et du coup sur laquelle on va prolonger les choses ensemble. C'est des choses que tu n'avais pas eu l'occasion de relayer, Matt.
Oui, ben en fait, lorsqu'on parlait dans l'émission publique, là on est entre nous, là, entre gens riches et célèbres qui sont abonnés au Patreon. Ouh. C'est une blague. Les privilégiés, on va dire. Ou peut-être pas, hein, ça va dépendre si vous aimez ce que je vais vous dire. Ce qu'on disait, c'est que j'avais mis dans les notes de l'émission une étude qui a été faite par Statistique Canada, qui est un organisme public chez nous. Alors, je sais pas s'il y a Statistique France, je sais pas s'il y a l'équivalent en France. Ça a été fait sur un bassin très représentatif de Canadiens. C'était une étude sur l'usage des médias sociaux. Et c'est une étude qui a été faite en 2018, alors bien avant la pandémie.
Je pense que c'est l'équivalent de l'INSEE chez nous, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, non?
C'est à vous de me le dire, moi je ne connais plus...
J'ai l'impression que ce serait un bon parallèle à faire, mais...
Et bref, cette agence fédérale-là avait fait une analyse, évidemment, à post-pandémie, parce que l'analyse est sortie en 2021, et quand on regardait rapidement l'article, on disait « Ah ouais, mais c'est normal qu'il y ait eu plus d'usage des médias sociaux, et ainsi de suite. » Mais il fallait lire les lignes et les échantillons qui avaient été faits et quand ça avait été fait. Et puis, ben, en bref, hein, je vous le rapporte, parce qu'on faisait un lien avec Facebook, on disait que bon ben la lanceuse d'alerte avait dit que ben Facebook était au courant que c'était pas bon pour la santé mentale des gens, c'était pas bon pour la santé mentale aussi des jeunes femmes sur Instagram notamment et des choses comme ça. Et ben des études gouvernementales payées par des données publiques prouvent exactement les mêmes choses, ce qui fait que on est un petit peu dans l'ordre de compagnies qui polluent et qui savent qu'ils polluent, de gouvernements qui savent qu'il y a des compagnies qui polluent, que c'est pas bon pour leur population. Et je vais vous citer certains chiffres là, que j'avais écrits. Là. Alors, l'Agence fédérale rapporte que 19% des Canadiens âgés de 15 et 64 ans ont déclaré avoir perdu du sommeil et que 22% ont admis avoir été moins actifs physiquement en raison de leurs usages des médias sociaux. Je vous rappelle que ça a été fait en 2018, hein, ça n'a pas été fait pendant la pandémie. De plus, 18% des personnes interrogées ont dit avoir de la difficulté à se concentrer sur des tâches, des activités en raison de l'utilisation des médias. L'âge a été un important facteur dans l'association entre l'utilisation des médias sociaux et l'expérience négative. C'est-à-dire que plus on est jeune, plus on aurait tendance à avoir une expérience négative des médias sociaux. Environ 47% des répondants de 15 à 19 ans et environ 28% de ceux 20-24 ans ont déclaré avoir perdu le sommeil en raison de leur utilisation des médias sociaux, comparativement à 16 et 21 pour la tranche 25-49 ans. Alors on comprend, hein, les jeunes sont un peu plus affectés que les personnes un peu plus vieilles. D'autre part, 24% à 36% des répondants de 15 à 29 ans ont indiqué avoir eu de la difficulté à se concentrer en raison de leur utilisation des médias sociaux. Chez les utilisateurs de 30-49 ans, ce pourcentage était de 13 à 18. Alors, il y a quand même une grosse différence, en fait. Et puis, je vais terminer avec ce texte-là. De plus, environ 20% des Canadiens de moins de 30 ans ont déclaré s'être sentis anxieux ou déprimés en raison de leur utilisation des médias sociaux par rapport à 12-15% des utilisateurs de 30-49 ans. Ça veut pas dire que 12 et 15% c'est bien, ça veut pas dire ça non plus, ça veut juste dire que on comprend qu'il y a une influence négative par rapport aux médias sociaux. Et quand on fait un certain amalgame sans vouloir le faire, on sait d'une part que ça a des dommages sur la santé mentale des personnes. Et de l'autre côté, on sait très bien en plus que plus on aura tendance à cliquer sur des mauvais contenus, plus on va en avoir. Ce qui fait qu'on on arrive dans un, comme dirait ma copine et moi, on dit souvent ça, on tombe dans un cercle vicieux où c'est pas intéressant de rentrer, mais qu'on rentre pareil. Et tu sais, pour les abonnés du Patreon, mais je pense qu'on devrait le dire à tous, pour lorsque on comprend tout ça, on a quand même un pouvoir d'éducation d'expliquer ces choses-là à notre entourage. Et s'il y avait un petit devoir, peut-être, je me permets, Guillaume, de parler à ta communauté, là, mais s'il y avait un devoir à faire, c'est de comprendre ça puis d'expliquer que, ouais, ben quand on clique sur des contenus qui paraissent peut-être anodins, on alimente cette bête-là et on alimente aussi le fait de propager à la fois des mauvaises nouvelles, mais de propager aussi une certaine problématique dans la santé mentale des gens. Et ça, je trouve ça un petit peu triste parce qu'on le sait. Et c'est un peu comme le parallèle, je le faisais dans l'émission, comme la cigarette, comme plein d'autres choses qu'on sait que c'est pas bon, mais qu'on continue à faire. Alors, d'en prendre conscience, ben c'est peut-être intéressant, peut-être pour ta communauté, Guillaume. Je sais pas ce que t'en penses, ou Guillaume Podjespala, je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, disons que c'est vrai qu'il y a un petit parallèle avec la cigarette, mais justement, quoi, la cigarette, elle est faite aussi pour être addictive. C'est-à-dire que c'est pas entièrement la responsabilité des gens. Il y en a une partie, tu vois, bien sûr, mais c'est aussi fait pour ça. Et c'est très difficile de lutter contre, en réalité, parce que c'est très bien fait. Instagram, c'est super bien fait, super bien calibré, tu vois. C'est vraiment des produits qui sont extrêmement efficaces. Et donc, ils sont aussi, du coup, potentiellement dangereux. Alors, je sais pas d'ailleurs si tu sors. Les chiffres que tu cites sont assez en lien, enfin, sont assez en accord avec ceux des recherches qui ont fait surface dans le Wall Street Journal et que depuis d'ailleurs Facebook a publié. Donc, je sais pas si vous avez vu ce qu'a publié Facebook, contraint et forcé, hein, globalement. Ils ont publié la recherche totale, quand on disait qu'il y a environ un tiers des jeunes femmes qui se sentaient plus mal dans leur corps à cause d'Instagram. Mm-hmm. Bon, bah, donc, il y a tous les chiffres de cette truc-là qui ont été publiés en PDF par Facebook directement. Et donc, ils l'ont fait par mesure de défense, en disant, regardez, ok, évidemment, ils peuvent pas dire le contraire, puisque c'est marqué. Mais par contre, il y a aussi du mieux, du bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes filles qui disent qu'elles se sentent mieux dans leur corps grâce à Facebook. Et il y a aussi, alors évidemment, il y a pas que, donc, être mieux dans son corps, il y a tout un tas de catégories psychologiques, de facteurs de stress comme ça qui sont analysés. Et à chaque fois, évidemment, bah, tu as une partie qui disent que Instagram a rendu pire ce facteur de stress, ou que ça n'a rien fait, ou que ça a amélioré, au contraire, que c'est mieux avec Instagram. Et donc, leur défense, c'est de dire, regardez, dans le Wall Street Journal, on dit qu'il y a 30% des filles qui disent se sentir plus mal à cause d'Instagram, mais il y en a quand même, alors je sais pas, je crois que c'est 22, mais à vérifier, 22% qui se sentent mieux grâce à Instagram. Et donc là, la question que je me pose, c'est en quoi c'est une réponse, enfin en quoi c'est une excuse. Je veux dire, est-ce que tu tolères, est-ce que c'est normal de tolérer de faire du mal à un tiers des jeunes filles si c'est pour faire du bien à 22%, est-ce que de toute façon c'est normal de faire du mal à 1% des jeunes filles?
Tu vois, on pourrait faire l'analogie sur le niveau de vie. On pourrait très bien dire, oh, mais regardez, effectivement, il y a 30% des gens qui sont encore plus dans la misère financièrement chaque mois. Mais regardez, il y a 20% des gens en face qui s'enrichissent. Et ça, c'est super quand même. Faut le garder à l'esprit. Bah, évidemment, je compare des choses qui sont très limitées dans leur comparaison, mais il y a quand même le même malaise qui se produit, je trouve.
Ouais, et puis ce que la lanceuse d'alerte a quand même cité, c'est qu'ils avaient mis en place des... Bon, si on revient à Facebook et plus sur le mal-être des gens, mais sur indirectement, ça va tomber sur le mal-être, hein, parce que on parle de diffusion de fausses nouvelles, de diffusion de contenu haineux et ainsi de suite. Dans ce que Facebook a mis comme filtre et qu'il l'a retiré délibérément. Parce que il le sait que le contenu un peu plus haineux, qui rend en colère, il y a plein de métriques, c'est super intéressant, mais à la fois terrorisant de savoir ça, que on le sait, puis on fait exprès d'avoir des contenus qui vont rendre les gens agressifs, qui vont rendre des émotions. Et pourquoi, in fine, pourquoi on fait ça? Ben, c'est de l'argent. Et je l'ai dit dans l'émission, malheureusement, c'est le modèle capitalisme dans lequel on vit, et il n'y a pas moyen de faire autrement que légiférer. Alors, on l'a légiféré au niveau des gouvernements pour... Parce que l'autorégulation, là, moi, j'y crois pas. Je sais pas si vous y croyez, moi, j'y crois pas. Là, on est un peu plus dans la philosophie. Mais il va falloir légiférer comme on le fait avec des normes au niveau de l'écologie, avec des normes au niveau de la santé, mais il va falloir peut-être aussi commencer à penser et ben, on a un pouvoir, tous et chacun, hein, de parler à son député, de parler et de lui montrer, regarde, toi, tu fais peut-être de la publicité pour ta campagne. Il y a des campagnes qui arrivent en France bientôt. Toi, tu fais ta publicité pour ta campagne, mais en même temps, tu fais la promotion de certains trucs parce que tu es sur telle plateforme. Alors, tu sais, on a tous un devoir. Et puis, je pense que au lieu de dire c'est malheureusement triste, Facebook veut faire de l'argent, ben on a aussi un pouvoir qu'on savait pas qu'on avait, qu'on pourrait peut-être utiliser. Fait que, je voulais juste fermer un peu la boucle en disant, bon, ben oui, c'est triste, on a plein de mauvaises nouvelles. Oui, il y en a qui arrivent à être joyeux par rapport à en ayant Instagram et Facebook. C'est peut-être des gens qui gagnent leur vie avec ça, et puis c'est pour ça qu'ils sont joyeux, je sais pas. Mais il y a des gens qui sont en détresse par rapport à ces plateformes-là. Et ça conduit, on le sait maintenant, ça conduit à des invasions de Capitole, ça conduit à plein de trucs qui sont pas tellement... Je suis pas heureux de vivre dans cette année de société-là, de voir ça, de voir des partis arriver au pouvoir alors qu'ils sont pas supposés. Leur programme est complètement aberrant. Ici, au Canada, on a des même au Texas, hein, vous avez vu dans les actualités, on parle d'avortement, puis faut retirer l'avortement, le droit aux femmes. Tu fais, mais mon Dieu, bordel, on vit dans quelle société? Ben, on l'a un petit peu encouragé tous et chacun avec ces plateformes-là. Je pense, hein, on l'a un petit peu tous et chacun mis à l'épaule à la roue en cliquant sur ben quel genre de pâquerette es-tu, Ginette, et tu cliques dessus et puis finalement t'enclenches un algorithme et sans tout le temps réfléchir. Toute cette réflexion-là philosophique pour arriver à, on a quand même tous un petit pouvoir. Maintenant qu'on le sait, ben ça va être notre devoir de répercuter la bonne nouvelle.
Ouais, si jamais les arbitrages pour les élections tournaient autour de choses aussi intéressantes et profondes, j'en serais ravi. J'ai malheureusement l'impression que l'actualité en France autour des futures élections présidentielles retourne à un niveau encore plus désastreux. Mais on va pas aller plus loin en matière de politique.
Pas maintenant. Pas on a encore l'espoir que ça s'arrange dans l'avenir.
Ouais. On aura le temps d'en reparler en temps et en heure et de voir l'impact des réseaux sociaux sur d'éventuels résultats en France. On a quand même le mec qui prend comme modèle Donald Trump. Bon, bref, je termine la parenthèse parce qu'on va parler de choses, encore une fois, peut-être un peu plus bassement matérielles, mais autrement plus fondamentales dans les fonctionnements techniques. On va parler de choses qui sont neuromorphes, donc neuro, bah, comme les neurones, et morphes comme la forme, quoi, donc qui ressemble et qui est pensée comme étant la structure de nos neurones. Guillaume, tu avais des infos et une petite chronique que tu avais préparée dans l'épisode hebdo qu'on va pouvoir relayer là dans cet épisode de week-end.
Oui, bah déjà, il y a deux petites nouvelles. C'est des performances sur des algorithmes de deep learning, hein, dans deux domaines qui sont très différents, puisque c'est l'art et la météo. Alors pour la météo, sachez que les Anglais de DeepMind...
Est-ce que la météo n'est pas une forme d'art ?
Les météorologues seraient pas forcément d'accord, je pense, mais bon. Donc, les Anglais de DeepMind, eux, bon, ils ont mis leur expertise au service de la prévision de la pluie. Bon, évidemment, c'est des Anglais, donc tu me diras, ça paraît logique. Et ok, alors bon, c'est vrai, DeepMind, ils ont quand même réussi à plier des protéines impliables super compliquées, ils ont vaincu le champion du monde de Go. Donc, prévoir s'il va pleuvoir demain ne semble pas si compliqué, et en fait, si. Parce que, bah ouais, il existe 50 nuances de pluie. Enfin, c'est les Anglais qui le disent. Et les Brestois aussi. Parce que, bon, après, parce
en
qu'il
Picardie
faut savoir,
aussi, hein, ça marche.
Oh, j'imagine. Prédire précisément où, quand et en quelle quantité la pluie va tomber, ça requiert énormément de calculs et une haute résolution. Enfin, en Angleterre, hein, certainement, parce que dans le Var, par exemple, la plupart du temps, c'est quand même assez simple. Mais bon, pour aller plus vite, un algo est entraîné à animer des masses d'air, donc sans connaître la physique du tout, juste en regardant précisément beaucoup de masses d'air qui se déplacent, et en fait, il apprend comment ça se déplace. Et étonnamment, bah, il s'en sort aussi bien que les modèles physiques lourds qui font le calcul brutalement. Donc ça, c'est un truc, une performance assez remarquable, quoique sans doute de moins en moins utile au fur et à mesure que le réchauffement climatique transformera la perfide Albion en une gigantesque île de beauté, mais c'est quand même très très fort, je trouve, de voir des modèles de deep learning qui ont aucune idée de la physique, et ça a déjà été fait pour les mécaniques des fluides, ce genre de trucs, quoi. C'est assez extraordinaire de voir qu'on peut utiliser le deep learning comme des approximants pour des équations différentielles, quoi. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très très fort. Ça marche donc très bien. Bon, on parle de beauté. On a parlé de l'île de beauté, on parle de beauté. On peut parler de la beauté de Dalila. ben Dalila, la fatale, la beauté de Dalila qui fut fatale au grand Samson. Vous connaissez tous l'histoire biblique. Samson qui laissa des plumes dans cette histoire, donc n'oublions pas la traîtrise de Dalila, donc qui fut représentée par Pierre-Paul Rubens vers 1609. Donc on y voit une Dalila blonde, ce qui est un petit peu bizarre pour une israélite, hein, je le reconnais. Blonde et dépoitraillée, comme ça, qui câline Samson, qui se fait lui-même couper les cheveux, hein, les cheveux par les Philistins, qui le prive ainsi de son herculéenne force octroyée par Dieu lui-même. Donc c'est une terrible traîtrise qui est aussi une terrible traîtrise pour la National Gallery, parce qu'elle a dû la ressentir très fort, cette traîtrise, là où je pense, parce qu'en fait, comme d'autres experts le craignaient déjà un petit peu, hein, cette toile est sans doute en fait un faux. Samson et Dalila ne seraient pas de Rubens, voilà, selon l'intelligence artificielle de Art Recognition, auquel on a très fort essayé de faire dire le contraire, et ben non, quel que soit le morceau, il n'y a pas moyen, l'IA est toujours à plus de 90% sûr que cette croûte à 5 millions de dollars n'est pas de Rubens. Donc la National Gallery l'a achetée en 1980. En vrai ou faux, évidemment, ben, je ne sais pas si on sera jamais complètement, totalement sûr, mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un tableau qui est quand même suffisamment différent des 148 autres Rubens que la machine connaît pour se poser sérieusement la question. C'est un petit peu ballot pour la National Gallery. Qui a au passage, n'empêche, trouvé un moyen et un outil pour essayer de ne pas se faire rouler dans la farine les fois suivantes, ce qui est quand même sympa.
Ce qui m'a marqué, moi, dans cette histoire, c'est que je me disais spontanément 148 modèles pour une intelligence artificielle, c'est peut-être pas beaucoup, ça fait pas beaucoup de contenu. Et en creusant, on comprend que chaque peinture a été découpée en petites zones, et c'est ça qui finalement fait une grande masse de données, c'est la multitude de petites zones découpées de l'ensemble des peintures. Et c'est ça qui fait que c'est pertinent, parce que j'imagine ça se baserait que sur 148 images. Je vais y arriver. Que sur 148 images qui ne sont pas découpées, ce serait forcément moins pertinent, non ?
Oui, mais complètement. Mais en fait, de toute façon, pour déterminer si une peinture est authentique ou pas, souvent on regarde effectivement la manière dont les coups de pinceau sont faits, ouais. On regarde très la précisément les couleurs, on regarde, il y a énormément de détails comme ça, couleurs, donc à petite échelle, ou effectivement les couleurs très précisément pour voir comment ça vieillit, ou même la craquelure sur le vernis peut donner des indications. Il y a énormément de détails comme ça. Je suppose qu'ils ont fait ça bien, mais bon, voilà. Je suis pas dedans, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant, ouais.
T'imagines l'association de ça et MOM avec les lunettes pour l'avenir lors des enchères? Tu sais, ces lunettes-là, et puis d'un seul coup, tu es capable de dire « Ah, ceci est un faux, monsieur !»
Même les commissaires priseurs vont perdre leur métier, je vous
mais
le dis,
oui,
moi.
Exactement.
On va aller faire un petit tour, comme souvent, du côté de chez Intel. Il faut suivre ce qui se passe du côté de chez Intel, Guillaume.
Ben, c'est ça. D'ailleurs, bientôt, voilà, même votre laptop pourra te dire, hein, si le Renoir que t'as accroché dans les chiottes est authentique ou pas.
Oh, j'ai une idée, moi.
Les puces accélératrices pour le deep learning arrivent sur PC. Alors, si on en croit une fuite, hein, exploitée par la chaîne YouTube, qui s'appelle Moore's Law is Dead. Donc on s'y attendait un petit peu, faut dire, hein, parce que voilà, que les prochaines puces Intel intégreront ce genre de truc, étant donné qu'il y en a dans les puces Apple M1, ce serait une unité d'accélération dite VPU, pour Vision Processing Unit, et donc ça serait dans Meteor Lake. Meteor Lake, c'est la prochaine génération de puces Intel, qui est prévue pour donc fin 2022-2023, et qui sera basée sur le processus Intel 4. Intel 4, donc anciennement 7 nanomètres. Ouais, attention, oui. Point de nomenclature imbitable Intel, attention, voilà, il va y avoir fait un jingle pour le point de nomenclature Intel. Donc, les puces actuelles, elles sont 10 nanomètres, super fines, pour les Tiger Lake, ou en Intel 7 pour les Alder Lake, donc anciennement appelé 10 nanomètres NN7 super fine. En gros, cette année, c'est le Intel 7, le prochain c'est Intel 4, oui, me demandez pas pourquoi le 4 vient pas le 7, donc l'an prochain, si tout se passe bien, voilà. Bon, en fait,
parce que c'était plus petit, ça joue sur la confusion des nanomètres.
Oui, bon, en fait, la raison est de tous Barnum, elle est très simple à comprendre. C'est la même qui pousse Microsoft à appeler sa deuxième Xbox 360 et pas Xbox 2. Parce qu'en face, il y a la PS3. Et que comme c'est bien connu, machin 2, c'est moins bien que truc 3. Donc, faut trouver d'autres noms. Et comme Intel est resté super longtemps sur le 14 nanomètres, puis sur le 10 nanomètres, pendant que TSMC, il faisait du 7 et du 5. Donc voilà, on change tous les noms pour aligner Intel 4, on le met en face du N5 de TSMC, et boum, voilà. Évidemment, ça change strictement rien au processus de fabrication respectif des constructeurs, hein. Ça ne reflète que de très très loin la densité totale des puces ou la taille des composants. Mais bon, bref, revenons à, voilà, après ce succulent aparté, revenons à Meteor Lake. Ce sera une puce en 3 chiplets, donc réunis par Foveros, un pour les cœurs de calcul, un pour la carte graphique et le reste pour le reste du bordel. Et Dans le bloc compute, il y aurait probablement donc de quoi accélérer des tâches de deep learning hein, qui pourraient devenir de plus en plus courantes, hein, donc le traitement audio-vidéo, la transcription de texte. Alors évidemment, on pense immédiatement à de l'upscaling comme le DLSS, puis il pourrait y avoir des fonctions intelligentes qu'on voit dans la suite Adobe, le traitement qu'on fait sur GeForce, le traitement du son là par exemple, qui est très utile. On a plein d'applications, la transcription effectivement de texte en temps réel, enfin de vocal en temps réel. Et voilà, il n'y aura que plus d'applications dans 2 ans. Voilà, donc même si c'est pas une info officielle, c'est très crédible effectivement que Intel se mette aux puces. Voilà, aux accélérations avec les puces neurales.
Ok, on va clore, du coup, il faut que tu tiennes encore un
Désolé.
Peu, Guillaume.
Je vais tenir, bien sûr.
La dernière partie de ta chronique autour des composants, justement.
Oui, parce que je voulais profiter de l'actu sur l'OIHI pour vous parler d'une nouvelle catégorie de puces qu'on évoque parfois rapidement, c'est les puces neuromorphes. Alors, neuromorphiques ou neuromorphes, je sais pas trop. Je vais dire neuromorphes parce que c'est plus court, hein, déjà c'est bien. Donc l'OIHI, c'est un nom de code hawaïen.
C'est pas le Wi-Fi, hein.
C'est le nom de code hawaïen pour une nouvelle puce Intel, enfin pour un
type
de puce
brûles,
très particulier.
On dirait que tu te brûles à chaque fois que tu le dis.
L'OIHI, c'est comme Oumuamua, hein. c'est un truc hawaïen, faut pas chercher. Bon.
C'est cool.
Ouais, plutôt. Je sais pas ce que ça veut dire, par contre, Frodo, j'aurais dû chercher.
Je vais regarder.
Bon, alors c'est quoi déjà? Parce que, alors déjà, on peut dire ce que ce n'est pas finalement l'OIHI. Alors, déjà, les puces neuromorphes, ce sont pas des puces exotiques avec des trucs organiques qui bougent ou des bouts de neurones vivant dedans. Hein, les puces neuromorphes, ce sont des puces en silicium normal qui sont fabriquées de manière totalement standard, déjà.
Ça veut dire longue.
Longue? Ah bon, d'accord.
Okay. Je vois tout de suite plein d'applications qui ne sont pas citables dans le podcast.
Absolument, mais Pierre-Olivier Dimman n'est pas là, donc on va pas le faire.
Non. Bon, enfin, en tout cas, ce ne sont pas non plus des puces d'accélération pour les algorithmes d'intelligence artificielle comme les NPU dont je viens de parler, par exemple, comme ou les TPU de Google ou les myriades d'autres hein, qui existent et qui sont assez souvent finalement de gros calculateurs matriciels et puis c'est tout. En fait, les puces neuromorphes, ce ne sont même pas des processeurs au sens strict, où on l'entend en général. C'est vraiment un nouveau modèle, c'est un nouveau paradigme de calcul, entre guillemets, qui est calqué sur le système neuronal, sur donc le cerveau, voilà. Alors notre cerveau, c'est pas un processeur avec une mémoire d'un côté, un code de l'autre, qu'on exécute séquentiellement. Hein. C'est un réseau d'unités qui sont super simples, qui sont ultra connectées et plastiques. Et le calcul, le travail qu'il fait, il émerge de la propagation de spikes, d'impulsions dans ce réseau. Et ce qui est hyper inefficace, il faut le dire, pour faire des multiplications à 10 chiffres, donc ne me demandez pas s'il vous plaît, c'est quand même extraordinairement efficace pour faire des trucs beaucoup plus compliqué, comme par exemple différencier votre belle-mère une lampe de chevet. Voilà. Surtout avec un minimum d'énergie dépensée. C'est ça qui est très important.
La lampe de chevet.
Je pense que tout le monde préférera la lampe de chevet, mais en tous les cas, l'important c'est que tu puisses dire ça avec une. Est-ce que tu puisses faire la reconnaissance avec moins de milliwatts dépensés. Ça, c'est très très fort. En tout cas, une puce neuromorphe, qu'est-ce que c'est donc? C'est une collection de nano-cœurs, quelque part, qui sont connectés à tous leurs voisins localement, dans une même unité. Et les unités, à l'échelle supérieure, elles sont aussi toutes connectées entre elles. Et on peut imaginer qu'une collection d'unités fasse une puce, et que plusieurs puces puissent être aussi connectées comme ça en réseau, peut-être de manière un petit peu plus standard. En tout cas, les nano-cœurs sont donc un petit peu les neurones du machin. Ils font pas grand-chose. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent en permanence des signaux, plus ou moins forts, de leurs voisins. Et à un moment, ça peut déclencher une réponse de leur part, qui sont eux aussi envoyés à d'autres nano-cœurs voisins, à d'autres neurones voisins. Et tout ça se fait de manière complètement asynchrone. Il n'y a pas de top d'horloge. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus de RAM. Il n'y a pas de, tu vois, les nano-cœurs ne contiennent, en fait, que la pondération des signaux et les diverses connexions à qui ils sont connectés. Et à quel point il faut attention à ces connexions-là. Les connexions et les poids sont finalement tout ce qui est nécessaire à la puce. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de RAM, il n'y a pas de mémoire externe. Bon, alors à intervalles réguliers, il y a un bilan qui est fait. Donc, voilà, en gros, ça se gère un petit peu comme ça en asynchrone. On envoie des spikes un petit peu tous les côtés. De temps en temps, un bilan est fait. Donc, en gros, on s'arrête. Tous les nano-cœurs regardent leurs connexions et décident lesquelles garder, lesquelles renforcer et lesquelles dégager. Et de cette façon, la puce s'adapte à la volée, en fait. Elle peut continuer à apprendre tout en fonctionnant. Elle modifie son connectome en temps réel, quelque part. C'est-à-dire qu'elle peut, voilà, elle peut modifier. Vous la connectez d'une manière, et puis au fur et à mesure, selon les trucs, elle peut changer. Donc, en fait, ce que j'ai décrit là rapidement, c'est comment fonctionne l'OIHI premier du nom. Donc, Intel a mis au point l'OIHI en 2017, Et c'est pas du tout la première puce qui essaye de faire comme le cerveau, hein. Il y a, IBM fait un peu la même chose avec les True North. Et puis il y a plusieurs autres projets universitaires là-dessus. Et l'OII, comme True North d'ailleurs, hein, ce sont des projets de recherche. Ce sont pas des produits. Vous pouvez pas en acheter. Donc si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'Intel a lancé l'OII 2. Donc il y a une évolution qui est quand même très significative de l'OII, hein, qui rendra la puce plus versatile. Donc par exemple, elle supportait des signaux plus complexes. Donc avant, en fait, c'était des bits, donc les impulsions, c'était des bits, tout simplement, qui passaient. Là, ça peut être des entiers. Donc en fait, ça peut être des impulsions qu'on peut représenter comme des impulsions plus complexes, hein, en réalité, des niveaux comme ça plus compliqués. Donc elle est aussi plus flexible dans sa programmation des nanocœurs. Les neurones qui sont les neurones de l'OII. Puis bon, évidemment, la plus de neurones, elle a environ 1 million, enfin 1 million maximum, on va dire, pour l'OII 2, et 123 millions de synapses. Alors évidemment, c'est très peu par rapport à nous. Nous, on a 85 milliards de neurones dans notre système nerveux complet et environ une cinquantaine de milliards de neurones dans notre cortex. Bon, un rat, par exemple, il a dans les 200 millions de neurones. Donc, on n'est pas non plus si loin que ça, surtout qu'un escargot n'en a que 11 000. Ah, bon, après, attention. Un rat, c'est 200 millions de neurones. Donc, un rat, bon, voilà, un rat, c'est pas si loin que ça. Mais le problème, c'est que c'est 448 milliards de synapses. Donc ça veut dire qu'il faut quand même un paquet de l'OII 2, hein. Donc c'est pas du tout clair qu'on puisse faire un rat robot, en tout cas, avec ce genre de puce pour l'instant. Peut-être un escargot robot, ou une fourmi robot, peut-être une fourmi robot. 250 000 neurones, une fourmi. Bon, après, je sais pas combien de synapses. Est-ce que c'est plus intelligent qu'un escargot, une fourmi? Ça, c'est intéressant comme question.
La question me brûle le cerveau, justement.
Je me demande, le gars qui fait les tests de QI pour les escargots, il travaille où?
Ah ben, écoute, je suis sûr qu'on peut trouver des tests pour savoir à quel point un escargot est intelligent. En tous les cas, les fourmis, c'est bien. Hein. Une fourmi, c'est peut-être pas très malin, mais si t'en fais plein des fourmis qui sont aussi intelligentes que les vraies fourmis. Bon, enfin, écoute, on déconne, mais Intel est très sérieux avec l'OII. Hein, les nouvelles puces sont sur donc Intel 4, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc un process qui est encore en développement, et le matos est dispo uniquement pour les chercheurs. Parce que justement, c'est un domaine de recherche encore très actif, hein, tout simplement parce que c'est pas du tout évident de voir comment utiliser une puce pareille.
Ouais, c'est ça. C'est toujours à peu près la même chose. C'est quels sont les codes d'usage après, non ?
C'est ça. Comment configurer ce machin pour qu'elle fasse des trucs utiles ? Parce que chaque neurone peut recevoir un petit programme très sommaire, mais le calcul, le vrai travail, il émerge des connexions qui existent et qui se modifient en plus au sein de la puce.
C'est ça, ouais.
Donc du coup, comment tu programmes l'OII? Et d'ailleurs, pourquoi tu te casserais la tête à le faire? C'est quand même une bonne question. Et la réponse à cette question, c'est parce que ça, quand ça marche, c'est super efficace. C'est-à-dire, les performances par watt sont 100 à 1000 fois meilleures qu'avec des puces standards. Et en plus, parfois, il faut même moins de paramètres, significativement moins de paramètres qu'avec un réseau neurone artificiel. Et ça demande beaucoup moins d'opérations aussi. En fait, l'OII consomme naturellement moins d'énergie selon comment on l'utilise. Par exemple, si on l'utilise à basse fréquence, comme prendre les fréquences de nous, pauvres humains de tas de viande, là, il utilise très peu d'énergie. Parce que, par exemple, admettons que tu veuilles qu'il reconnaisse un geste. Donc, tu lui envoies un geste, voilà, tu fais ici coucou de la main, il reconnaît le coucou de la main. Pour faire le geste, tu mets à peu près une seconde à le faire, le geste, tu vois, c'est des trucs de l'ordre de la seconde. Du coup, l'OII, il a absolument pas besoin de tourner à 1 GHz pour reconnaître ton geste. Le truc qui fait une seconde, à quelques kilohertz, en fait, et ça suffit. Et comme il fonctionne de manière asynchrone, sans vraiment d'horloge, la console de la puce, elle est dérisoire quand tu l'utilises à des fréquences humaines, quelque part. Des fréquences temps réel. Donc, il y a ça, et puis il y a aussi la localité de la mémoire. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire transiter de gros volumes de données d'un morceau à un autre, d'une puce à une autre, c'est aussi très intéressant. Donc, la synchronicité comme ça de l'ensemble et la localité ne sont pas étrangères au fait qu'il y ait de très très bons résultats pour les puces neuromorphes dans les domaines de reconnaissance comme ça, avec très 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 peu d'énergie. Alors, pour l'instant, les chercheurs ont réussi à utiliser l'OII en traitement du signal, audio et vidéo un petit peu. Donc il y a reconnaissance des mots-clés, traitement vidéo simple, et puis aussi pour des problèmes d'optimisation, de type voyageur de commerce. On est encore loin d'un produit grand public, mais Intel a dévoilé un SDK, donc non seulement pour l'OII, mais aussi pour tout autre système neuromorphe, ou même tout processeur ou GPU sur lequel tu devrais prototyper des trucs. C'est un truc qui s'appelle Lava, et qui est universel en fait, hein. Ça permettrait à n'importe qui d'essayer un truc sur son PC, comme si avec une puce neuromorphe simulée, quoi. Et après, tu l'envoies sur une vraie puce l'OII pour voir ce que ça donne. Donc, c'est un véritable défi, hein, les puces neuromorphes, qui est moins, finalement, moins technique que conceptuel. Parce qu'en fait, les puces sont déjà là. Maintenant, il faut les utiliser. Et pour ça, mmh. ben, il faut complètement repenser sa manière de programmer. C'est tellement différent d'un programme standard, ou même de la programmation parallèle qu'on fait avec les GPU ou un truc comme ça, que, en fait, c'est quand même un énorme effort intellectuel et c'est beaucoup de travail. Et puis, c'est aussi nécessaire parce que quand le logiciel arrivera, il va dicter des améliorations matérielles qui, à leur tour, permettront d'autres applications. Et au fur et à mesure, les puces neuromorphes pourraient devenir indispensables et monnaie courante, en fait. Hein, il n'est pas impossible, peut-être, allons sait savoir que le Vision Processor du Core de génération 19, hein, je sais pas, ce sera peut-être une puce neuromorphe, qui sait.
C'est difficile d'utiliser la boule de cristal. Tu vois ce type de techno arriver de manière viable et courante dans combien de temps? C'est difficile à dire, hein, j'imagine.
Avant ou après Windows 11?
Probablement après.
Ah ben, quand ils auront sorti le truc, le vrai système qui marche, Windows 12.
Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même, c'est des échelles de temps de 10 ans. C'est des...
Ouais, je pense qu'on c'est est ça. Au-delà, à peu près. Dans, ouais, parce que l'OEE, c'est 2017. Et bon, là, si tu veux, c'est encore vraiment recherche. Je pense que dans 5-10 ans, mais plutôt 10, ouais, on peut commencer à penser à un truc. Mais peut-être avant, hein, tu sais, c'est difficile.
Ouais, donc, si le SDK est disponible, c'est sûr que ça peut ouvrir des champs de possibilités, mais si par contre il faut programmer d'une manière différente, là, oups, ça peut peut-être en redescendre un petit peu. Là.
Ouais, alors nos LoHi peut être utilisé quand même pour plaquer des réseaux de neurones qu'on connaît déjà, c'est possible, mais c'est un peu réducteur parce que LoHi peut aussi s'auto-modifier quelque part. Donc c'est voilà, il y a probablement du travail à faire. Enfin, en tous les cas, voilà, c'est un nouveau système de, enfin c'est un nouveau paradigme, voilà, de puces qui existe aussi depuis quelques années, sur lesquels il y a des recherches et voilà, qui peut-être émergeront comme des trucs extrêmement courants dans l'avenir. Moi, j'y crois parce que je pense que c'est quelque chose, enfin, c'est une architecture qui est assez naturelle pour certains trucs et pour des trucs qui sont très populaires actuellement. Tu vois, en particulier les traitements des signaux, par exemple. Si tu dis voilà, on peut faire la reconnaissance des visages avec 100 fois moins d'énergie, je pense que ça finira par arriver, quoi.
Ou l'analyse après, météo.
Ouais, peut-être. Après, le truc, par exemple, c'est que dans les systèmes d'optimisation, par exemple, dans les problèmes d'optimisation, pour que ce soit utile en vraie grandeur, il faut savoir que les systèmes d'optimisation, il y a des problèmes d'optimisation de partout. Mais par exemple, quand tu es un prestataire de train et que tu dois optimiser, voilà, si tu es la SNCF et que tu dois optimiser ton routage à la SNCF, enfin, je sais pas, mais t'imagines la quantité de données que ça représente. Et ça, il faut le mapper sur une puce, quoi. Pour l'instant, les puces qui sont fabriquées sont pas assez puissantes, en fait, pour des trucs de vraie grandeur. Mais ça pourrait changer bientôt. C'est pas exclu que il y ait suffisamment de neurones dans l'OI3, par exemple, pour avoir un truc en vraie grandeur, quoi.
Tu vois. Ben, tu sais, hein, vous disiez, il y a une dernière émission que, ben, la conduite autonome, on n'y croyait pas. Je veux pas paraphraser ce que vous disiez, mais vous étiez assez sceptique que ça arrive, ou que même que ça arrive un jour, avec ce genre d'application de processeur, ce genre de façon de faire, c'est envisageable?
Ben, disons que ça déplace, enfin, comment dire. L'OEE, c'est pas une solution miracle. Ça permet de faire des trucs plus efficacement. Et ça, c'est ouais. vrai que c'est un vrai souci. Là, le problème qu'on a actuellement avec les gros modèles, je pense, de réseaux de neurones, c'est que ça consomme de plus en plus de puissance de calcul, donc de plus en plus d'énergie, et qu'à un moment, c'est plus tenable. Parce que bah, la loi de Moore est morte, comme disaient les mecs de YouTube, là. Non, comme la chaîne YouTube s'appelle. La loi de Moore, elle est pas morte, mais si tu veux, bon, maintenant, d'une génération de processeur à l'autre, tu gagnes 10-15%. Donc ça veut dire, en 1-2 ans, tu gagnes 20% peut-être, tu vois, en moyenne, peut-être 20-25%, tu doubles pas, quoi.
Ouais. Ouais, tout ça pour réfléchir moins bien qu'un escargot, en plus.
Donc, ouais, le truc, c'est que globalement, la taille des modèles et les besoins en calcul augmentent toujours de manière exponentielle, alors voilà. que la loi de Moore, elle est plus exponentielle, enfin, je veux dire, ça marche plus comme ça, quoi. Donc, ça va pas assez vite. Et ce qu'il faut, donc, c'est que pour avoir des systèmes qui réfléchissent toujours plus, toujours mieux, qui sont toujours plus complexes, ben, la course à l'armement avec des méga, giga serveurs de TPU de plus en plus puissants, ça risque de se heurter à un mur thermique, hein, globalement, et ou voire même un mur financier aussi. Et donc une possibilité, ça pourrait être de passer par des puces neuromorphes qui ont apparemment la possibilité de diviser par plusieurs ordres de grandeur la performance par watt. Donc ça, c'est un espoir, effectivement, d'avoir des modèles plus efficaces, enfin, disons, plus gros, plus complexe et peut-être aussi juste plus efficace, hein, tout simplement, plus malin, quoi, pour faire des trucs toujours plus sophistiqués avec, en conservant une consommation énergétique et voilà des échelles qui sont gérables, quoi.
Les acteurs qui sont embarqués dans ces recherches-là, j'imagine qu'il y en a peut-être plein, hein, il y a Intel, IBM, Samsung, il y en a d'autres.
Oh, il y a beaucoup d'universités qui travaillent là-dessus. J'ai pas une liste hein, si tu veux, mais tu peux regarder de toute façon. Plus Neuromorph sur Wikipédia, t'as une liste de projets, t'as Georgia Tech, je crois que t'as le MIT, tu dois avoir Stanford, tu dois avoir tous les. Je suppose qu'il y a pas mal de grands noms dessus. Et donc oui, c'est un truc. C'est une piste de recherche, on va dire.
Merci beaucoup, Guillaume. On aura appris ce que c'était que les puces neuromorphes. On aura mieux identifié ce dont il s'agissait. Et je suis sûr que c'est un thème qu'on va voir revenir à l'avenir. On en reparlera. Merci beaucoup pour la préparation de cette émission. Merci beaucoup à toi, Matt, d'avoir continué à nous accompagner pour cet épisode supplémentaire de Tech Café. On vous invite évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter l'épisode de Tech Café hebdo sur l'actu tech incontournable. Merci beaucoup de votre fidélité. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.
Ciao à tous.
Salut la communauté de Tech Café.